Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Rav Eli Lemel, on survole comme chaque semaine notre paracha, le passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et on arrive donc à Pinchas. Et Pinchas pose toute une série de questions et d'enseignements. Mais vous voulez intervenir, vous, ce soir, sur quelque chose de particulier. C'est que Moïse, Moshe Rabbeinu, sait qu'il va partir. Et donc, il doit choisir un chef, un successeur. Donc, sujet éminemment politique, mais sujet qui nous parle à nous tous. Nous, on n'est pas tous les jours à chercher un chef. Mais par contre, on a besoin de savoir c'est quoi un vrai leader, c'est quoi un vrai chef. Peut-être, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, peut-être même aussi comment nous essayer d'être des gens qui apportent quelque chose de positif en étant facteur de proposition. Mais surtout, voilà, disons comme ça, comment est-ce que la Torah nous explique la façon de trouver un chef et quelles qualités elle veut qu'il ait?
Exact, exact. C'est vrai qu'on est dans un moment quand même clé de l'histoire, puisqu'il va y avoir donc d'abord cette fameuse guerre avec les Midianim, qui, comme vous le savez, ont fait fauter les enfants d'Israël, avec tout le passage des jeunes femmes qui les ont amenées à la débauche, et puis par la suite à la Avodah Zara, à l'idolatrie. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, bien, maintenant, il va falloir s'occuper des Midianim, avec tout ce qu'ils ont fait, mais tout de suite après, bien, Moshe sait que ça va être le moment dans lequel il va devoir partir de ce monde. Et à ce moment-là, eh bien, Moshe va s'adresser à Dieu et lui va lui poser la question, il va lui dire « Yifkad Hashem Eloke Aruchot Lochol Basar Ish Halohéda ». Moshe va demander à Dieu, il va dire que Hashem place. Alors c'est très intéressant parce qu'il parle ici de Dieu Eloke Aruchot, le Dieu des souffles pour toute chair, Ish Halohéda, un individu, un homme sur l'assemblée. Donc déjà, c'est intéressant de voir quelle est l'appellation qu'il donne au créateur de l'univers. Et puis après, il va définir un petit peu son rôle, Asher Yetzé Lifnem, Asher Yavo Lifnem, qui littéralement sortira de devant eux et viendra devant eux. Et il continue, afin que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un bétail qui n'a pas de berger. Alors, on sait très bien que ça fait très... L'image est belle, mais évidemment, vous savez très bien que si la Torah utilise ces termes, ce n'est pas parce qu'on a envie de faire de jolies images, c'est parce qu'il y a ici des enseignements fondamentaux. Eh bien, tout d'abord, intéressant de voir que Moshe, dit le Midrash, d'abord a imaginé que ça pourrait être ses enfants qui seraient ses successeurs. Et Dieu va dire non, ce n'est pas eux. Celui qui va être ton successeur, eh bien, c'est Yoshua, Josué, qui est son fidèle élève, celui qui, l'Oyamish, celui qui n'a jamais quitté la tente de Moshe, traduction, c'est celui qui a été à proximité constante de Moshe, non pas juste pour entendre son enseignement, mais surtout pour le voir quelque part gérer et traduire au fond la Torah dans le monde du réel. Et c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit « Gadol Shimusha Yoter Milimuda », ce qui veut dire que plus grande et plus importante est Shimush, c'est-à-dire la proximité, le service, littéralement, des Talmidei Chachamim, des maîtres, bien plus que l'apprentissage du savoir. Alors, évidemment, il faut être dans la connaissance, il faut être dans le savoir, mais au fond, ce qui est important, c'est de savoir comment ce savoir se traduit dans le monde du réel, et c'est la fréquentation, la proximité avec les maîtres qui nous permet de le découvrir. Il y a ce qu'on appelle le monde de la théorie, le monde de la pratique. Je me rappelle avoir eu ce privilège extraordinaire de fréquenter un tout petit peu quelques maîtres et peut-être certains un peu plus proches. Et c'est vraiment un privilège et une chance incroyable que j'ai eue. Et je me rappelle un jour, près d'un de ces maîtres, eh bien, quand il avait posé une question, il avait donné une réponse, et avec un peu d'impertinence, beaucoup d'impertinence, je m'étais tourné vers ce maître et j'avais dit mais Rav, c'est marqué où ça? Et le Rav, de me regarder en souriant, il me dit ça, c'est marqué dans le cinquième Chelek du Shulchan Aruch, c'est-à-dire dans la cinquième partie du Code des lois juives, surtout qui n'en compte que quatre. Et en bon, qu'est-ce qu'il était en train de me dire? Ça, justement, ça, c'est ce qui n'est pas écrit dans les livres, et c'est ce que tu dois apprendre en étant à proximité d'un maître, entre autres que chaque question de halakha, chaque question de loi, est fonction aussi de l'individu qui est en face. Il y a bien sûr des bornes qu'on ne peut dépasser, mais entre les deux, il y a en effet toutes sortes d'éléments dans lesquels on tient compte de l'humain qui est en face de nous. Un petit peu cette image, la question au fond, c'est comme un satellite que vous allez envoyer sur une orbite, vous mettez à l'intérieur tout ce qui est nécessaire. Donc pas juste la question, mais aussi l'état d'esprit, qui est la personne qui la pose, quel est le contexte. Et après, avec tout ça, eh bien, le maître, justement, va donner sa réponse. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, Hachem dit, voilà, la première qualité du chef, c'est qu'il ait été à proximité, qu'il ait su s'imprégner de cette Torah qui n'est pas nécessairement écrite dans les livres, mais que l'on apprend, qui est véritablement la notion de Massora, la notion de transmission. D'ailleurs, on le voit souvent, on va dire, voilà ce que j'ai entendu de mes maîtres, voilà ce que j'ai vu chez eux, et ça, c'est véritablement un élément essentiel. En dehors du fait qu'il n'y a pas juste cette zone d'apprentissage, mais il y a aussi une imprégnation de ce qu'est véritablement un maître. Un maître, c'est-à-dire pas juste un savoir, mais aussi de la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la manière dont il est, dont il fonctionne au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et donc, Yoshua, en effet, eh bien, c'est celui qui a été en permanence proche de Moshe, qui ne l'a jamais lâché. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle Yoshua va être choisi. Donc déjà, cette première dimension. La seconde chose, c'est que Moshe dit « Eloke aruchot l'ochol basar » que le Dieu des souffles de toute chair. Non, Dieu, Yifkod Hashem, que Dieu choisisse, qu'il place. Pourquoi Eloke aruchot? Eh bien, parmi les différentes explications que nos maîtres donnent, ils disent la chose suivante. Un maître, un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il y a des ruchot, c'est-à-dire que chacun des membres du peuple d'Israël est différent. Et de la même manière, comme dit le texte, chez En Partsufehem Shavim, que leurs visages ne sont pas identiques, ainsi En Deoten Shavot, de la même manière, leur vision des choses, leur perception de la vie n'est pas identique. Donc, quelqu'un qui sache en effet intégrer la singularité de chaque personne vis-à-vis de laquelle il aurait une responsabilité et agir en fonction de cette singularité. C'est très important parce que ça veut dire qu'au fond, le maître n'est pas là pour poser une idéologie, mais est là pour transmettre la Torah, pour diriger la communauté et le peuple, mais en tenant compte de la particularité, de la spécificité de celles et de ceux qui sont en face de lui. Et là, je pourrais rester longtemps et vous raconter de multiples histoires dans lesquelles, en effet, eh bien, on peut constater ô combien des maîtres tiennent compte de cela. Je me rappelle d'ailleurs, c'est juste une anecdote, il y a nombreuses années de cela, on m'avait posé une question complexe, évidemment, dans ce genre de cas. Vous êtes tellement heureux d'avoir des maîtres vers qui la poser, parce que souvent, nous ne sommes que des transmetteurs. Et j'avais parlé à un maître, qui était à l'époque à Londres, et je lui ai dit, voilà la question qui m'est posée, qu'est-ce qu'on dit? Et lui m'avait dit, mais qui sont les personnes qui te posent la question? Et je l'avais décrit, je lui ai dit, c'était des personnes qui avaient fait un retour au judaïsme. Et il m'avait dit cette phrase, il m'a dit, écoute, je ne connais pas suffisamment leur univers et donc je ne suis pas sûr que je pourrais donner la réponse qui doit être la leur par rapport à tout ce qui constitue la question, c'est-à-dire eux aussi, appelle-t-elle autre Rav qui lui connaît bien mieux cet univers et qui pourra te donner la bonne réponse. Et ça, c'est cette notion-là qu'on vient d'évoquer avec cette notion de proximité du maître. Et là, Eloke Aruchot, il faut en effet que le maître soit à l'écoute de la singularité, que le dirigeant comprenne que chaque génération est différente, que chaque famille est différente, et donc qu'il sache intégrer cela à l'intérieur de la manière dont il va gérer ses responsabilités par rapport à des individus, par rapport à une communauté, par rapport à un peuple. Et après cela, « Asher yetzé lifnem, vacher yavo lifnem » qui sortent de devant eux, et qui rentrent devant eux. C'est-à-dire, on a ici quand même quelqu'un qui soit capable aussi de se sortir en premier lieu et après venir vers eux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Eh bien, c'est un petit peu, alors certains, ça va les faire sourire, c'est presque le contraire de la démocratie. C'est-à-dire, il voit d'abord sortir, il prend d'abord une direction et après il vient vers eux. Traduction, il doit savoir dans quelle direction on doit faire avancer les choses et ne pas sans arrêt être en train d'interroger le peuple sur ce que le peuple veut. À un moment, un chef dans le peuple d'Israël, évidemment qui est nourri par une vision Torah de l'existence et par la proximité de maître, eh bien, doit savoir qu'il y a une direction à prendre et après faire en telle sorte de ramener cette direction vers le peuple et leur montrer ô combien celle-ci, eh bien, est fondamentale. La Gemara, Talmud, dans le traité de Sota, nous dit que une des caractéristiques de l'époque prémessianique, c'est que on dit que la génération ressemblera au chien. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, une des choses, malheureusement, c'est que le chien n'a honte de personne, il fait tous ses besoins devant tout le monde, il y aura une forme comme ça d'impudence, aucun problème. Mais seconde lecture, c'est que quand vous voyez un chien et que vous avez devant le maître, en vérité, le maître n'est généralement pas à l'avant, généralement le maître est à l'arrière, et on a l'impression que c'est le chien qui dirige le maître, sauf quand on arrive à un carrefour. Et sur ça, nos maîtres disent, eh bien, ça sera sans doute un système dans lequel les dirigeants, au fond, interrogeront sans arrêt à chaque carrefour le peuple pour lui dire, mais où veux-tu aller ? Et nous prendrons la direction que le peuple veut aller. C'est vrai que ça pose un réel problème, parce que lorsque le dirigeant décide et que le peuple a l'impression qu'il n'est pas écouté, on peut arriver à tous ces principes de totalitarisme, mais rappelons-nous qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans la Torah, le chef, surtout le roi d'Israël, puisque c'est le symbole même du chef, doit avoir en permanence avec lui un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il guide le peuple suivant ce que la Torah nous demande, et il a à ses côtés, bien sûr, des maîtres qui l'aident à mieux comprendre comment, en effet, la Torah nous propose de gérer telle et telle situation. Et nous savons parfaitement que chaque époque est différente et que donc, il y a des manières différentes d'appréhender les problématiques, mais c'est un petit peu ça. Asher Yetzé, d'abord qu'il sache vers où il faut aller, Yasher Yavo. Et après, il va revenir vers eux, leur ramener au fond la direction que l'on doit prendre. Et puis après, que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un tson, un troupeau qui n'a pas de berger. Alors, c'est quoi au fond ? Eh bien, ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque on parle de berger, on parle de quelqu'un qui a une responsabilité, alors que le maître n'est pas là. Généralement, le berger est là, et puis lui, il a une responsabilité, mais il sait qu'il a une responsabilité, mais ce n'est pas son intérêt personnel. Vous savez, si demain j'ai un troupeau, moi, et qu'il m'appartient, je m'en occuperai bien parce que j'en tire un bénéfice, parce que, au fond, ça m'intéresse, parce que plus les moutons seront en bonne santé, plus ils produiront du que sais-je, et plus je gagnerai de l'argent. Alors que le roé, le berger, lui, il n'a pas d'intérêt personnel, parce que lui, il a son salaire. Alors lui, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse les choses parce qu'il faut les faire et pas parce qu'il a son intérêt personnel. Il y a, disons, mettre ici une forme, si je peux m'exprimer ainsi, de petit clin d'œil, en train de dire, lorsque le dirigeant voit son intérêt personnel, alors à terme, ça ne le fera pas. Il doit être à l'image de quelqu'un qui est là en mission et qui a une responsabilité et qui veut assumer le mieux possible cette responsabilité. Comme ce roé qui, de toute façon, est payé. Alors pour lui, qu'est-ce que ça change, qu'il y a un mouton de plus ou de moins ? Eh bien non. Pour lui, c'est justement important parce qu'il est payé pour cela, mais ce n'est pas son intérêt personnel qui est à l'origine de la manière dont il s'occupe de son troupeau. Et cette notion-là est ô combien fondamentale, que la personne n'ait pas d'intérêt personnel à l'intérieur de sa dimension de direction. Et à partir de cela, évidemment, eh bien, on peut avoir les bases, les sous-bassements de ce qui va permettre par la suite à un peuple d'avancer, à une communauté, parce que lorsque l'on parle ici de chef, de dirigeant, eh bien, on parle aussi de communauté. Comme vous le voyez, juste comme ça, très rapidement, ô combien ces versets nous ouvrent sur ces fondamentaux, ils demandent d'être beaucoup plus explorés que ce que je viens de le faire avec vous, évidemment, mais on a déjà ici les bases d'une réflexion qui est passionnante.
Rav Eli Lemel, est-ce que vous me permettez de vous parler de football ?
Avec plaisir. Moi, je suis encore à l'époque de ceux qui s'appelaient Carnus et autres. Alors, peut-être certains se rappelleront de Marseille et de Saint-Étienne, etc. Ah ouais. Mais bon, on va faire comme si on connaissait ce qui se passe actuellement.
Ah bah, mais non, mais je vais vous parler de quelqu'un qui date de cette époque. Il y a un jour, je demande à Luis Fernandez, et je me souviens que Mbappé avait 18 ans, donc vous voyez, c'est pas hier. Mais justement, c'est lié. Je lui dis, on dit, il avait 18 ans, Mbappé. Je lui dis, est-ce que tu crois que Mbappé, il peut devenir le meilleur joueur du monde? Il est, voilà, on dit qu'il a ce potentiel-là. Alors il me dit, en tout cas, il a le potentiel. Ah, je lui dis, ah bon, et qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il devienne le numéro 1 du monde? Et Luis Fernandez, qui a été donc joueur mythique, qui a été entraîneur du PSG, notamment, me dit, il faut qu'il trouve les bons dirigeants, les bons entraîneurs. Et il doit comprendre, l'entraîneur, que c'est quoi un bon entraîneur? C'est quelqu'un qui comprend qu'il doit donner la possibilité au joueur de jouer et d'être lui-même et de se développer lui. Parce que de très nombreux entraîneurs croient qu'ils refont leur carrière. Ils ont été joueurs et après maintenant ils refont leur carrière en étant entraîneur. C'est très rare de trouver un entraîneur, donc en l'occurrence pour reprendre votre réflexion de ce soir, un dirigeant, de trouver un entraîneur qui comprend qu'il est là pour l'autre, mais qu'il le fasse vraiment. C'est-à-dire pas qu'il refait le match, quoi, ou qu'il refait sa carrière. Ce sera la carrière de Mbappé. Si quelqu'un sait faire ça, c'est jouer au football déjà, c'est quand même, ça peut aider, mais est un expert et saura de comprendre qu'il ne fait pas le match à la place de Mbappé, mais que ce sera lui qui le fera, alors Mbappé deviendra le numéro un du monde. Est-ce que vous trouvez que c'est en adéquation à ce que vous venez de dire?
C'est en adéquation et en vérité, ça m'ouvre à un commentaire que j'avais entendu il y a très longtemps du Rav Frankfurter, que j'avais beaucoup aimé, sur le fait qu'il y ait marqué tzadik katamari, frère, que le tzadik, le juste, il est à l'image du palmier. La question se pose, pourquoi le palmier? Il y a plein d'autres arbres. L'explication qui était donnée, elle était fort belle, c'est que le palmier, vous savez, il a un feuillage, mais qui est très haut placé, ce qui permet au soleil de pouvoir accéder sur la proximité immédiate du tronc et donc de permettre aux jeunes pousses qui sont là-bas de se développer. Au fond, le tzaddik, quelqu'un de juste, quelqu'un qui a une responsabilité, est celui qui donne la possibilité à ceux qui sont à proximité immédiate, justement, de se développer. Il ne cherche pas à leur faire de l'ombre, au contraire, il n'a qu'une envie, c'est qu'eux-mêmes puissent véritablement s'épanouir et éclore. Donc voilà, en effet, on s'y retrouve un petit peu.
Magnifique. Magnifique, Rav Eli Lemel. Merci pour ce très beau cours, une fois encore. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom ou Mevorach.
Rav Mordechai, on continue l'étude de notre paracha de cette semaine. Et alors vous avez envie de poser une question, j'ai envie de dire, vous avez envie de changer de côté. Parce que tout le monde en fait se demande, oui mais que fait Pinchas? Que veut Pinchas? Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut faire? Tout le monde s'interroge sur Pinchas, c'est même le nom de la paracha. Mais vous venez, vous nous dites, mais est-ce que quelqu'un s'est interrogé sur celui qui a fauté? Qu'est-ce qu'il veut lui?
Ça, c'est absolument. Ben, c'est vrai, c'est la question qui traverse tout le livre de Bamidbar, où on nous parle des explorateurs qui ont fauté, de Korar qui a fait une marloquette, de Myriam qui à un moment donné va dire du lâcher, c'est dans un autre registre, et en plus,
des miracles,
qui va dire une médisance, voilà. Et ben, Moshe Rabbeinu, par exemple, oui, qui tape sur un rocher au lieu de lui parler, donc il loupe un rendez-vous avec l'histoire. Bref. Dans ce livre, on nous raconte un peu tout ce qui ne marche pas et tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que ça ne marche pas. Ben là, ici, dans la paracha de Pinchas, où Pinchas va tuer, il l'a tué, c'est la paracha de la semaine dernière, Zimri ben Salou, qui se commet dans un acte impudique avec une princesse de Midian. Il les tue tous les deux pour faire stopper, pour faire arrêter une plaie qui s'abat sur le peuple et pour mettre fin à la débauche collective d'Ebné Israël, avec donc les filles de Midian. Et donc la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce que Zimri pense gagner avec cette princesse cette princesse Midianite. Il vient devant Moshe Rabbeinu avec elle. Il lui dit, deux minutes, si moi je ne peux pas me marier avec cette femme, pourquoi toi tu t'es marié avec une femme de Moab? Mais Moshe Rabbeinu, il pouvait pas me répondre. Il s'est marié avec une fille, pardon, de Midian, la fille de Yitro. Il s'est marié avec elle parce que c'était une tzadikette, parce que c'était une femme qui voulait embrasser la foi juive et le judaïsme et l'aventure du peuple juif, et parce qu'on était avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, tous les mariages qui se sont faits, dont la Torah parle, se sont faits au niveau prophétique. Par exemple, Yaakov a épousé deux sœurs. La Torah interdit à un homme aujourd'hui d'épouser deux sœurs, mais avant le don de la Torah, Yaakov a épousé deux sœurs. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, a épousé Yochevet, sa tante. Aujourd'hui, c'est interdit à un homme d'épouser sa tante. C'est un des 21 cas de mariage interdit par la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu pouvait répondre, mais il n'a pas répondu. Comme tétanisé, en quelque sorte, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il voulait, lui, ce Zimri Ben Salou? Alors, voilà, la réponse est la suivante. Zimri Ben Salou, il a vu que les Bnei Israël se commettaient à la fois dans la prostitution et en même temps dans l'idolâtrie en sortant du camp. Ils sortaient du camp, ils se rendaient dans les magasins mis en place par le stratagème de Bilam, dans lesquels on vendait du lin, mais dans lesquels, dans l'arrière-boutique, on leur permettait de rencontrer des jeunes filles. Et donc, ayant des aventures galantes avec les jeunes filles, ils avaient également comme condition, évidemment, de se prosterner devant la statue de Baal Péor et donc de se commettre dans un acte idolâtre. Donc, il y avait deux choses. Il y avait l'idolâtrie et la débauche. Vient Zimri Ben Salou, dit à Moshe Rabbeinu la chose suivante. Ça suffit, l'idolâtrie. Voilà, moi, je te propose un raccourci. On va demander à tous les Bnei Israël qui veulent convoler en injuste noce avec des filles de Midian, eh ben, de prendre ces femmes et de les amener dans le camp des Bnei Israël. Donc, conversion massive en deux minutes express. Mais, au moins, on aura arrêté l'idolâtrie. Bon, la débauche, ça sera déjà une autre affaire. Mais au moins, on a arrêté l'idolâtrie. Ça, c'est la kavana de Zimri Ben Salou. Zimri, il vient, il dit, on va complètement arrêter cette histoire d'idolâtrie. Mais bon, ça sera au prix, finalement, de relations qui sont des relations avec des femmes qui ne veulent pas réellement ni du judaïsme, ni même de la Torah. Mais bon, au moins, on les amène à l'intérieur du camp des Bnei Israël. Ça s'appelle, dans le langage des sages, on commet les actes de Zimri et on veut le salaire de Pinchas. Autrement dit, on joue mal son coup, pas du bon côté, mais on est profondément persuadé du fait qu'on est en train de faire du bien. Zimri, vous l'auriez attrapé quand il était devant Moshe Rabbeinu, vous lui avez dit « Est-ce que tu es sûr de faire quelque chose de bien ?» Il vous aurait dit « Oui, parce que je suis en train de sauver le peuple juif. » Et Pinchas vient et dit « Non, si tu veux sauver le peuple juif qui maintenant est en train d'être décimé par une plaie, tu vois bien qu'Hachem n'est pas d'accord avec tout ça, il faut arrêter totalement, il faut rompre totalement avec les femmes de Midian. Et il faut que la cellule familiale juive soit constituée sur des bases claires. Un, on adhère à la Torah d'Israël. Deux, on adhère au projet du peuple juif. Trois, on adhère à la forme que les sages donnent à cette union. Il faut un mariage, il faut une roupa, il faut qu'on soit d'accord, il faut qu'on soit au même niveau d'envie et de projet. Ça, c'est l'opposition entre Pinchas et Zimri. Vous voyez Zimri, au moment où il agit, il est profondément persuadé de faire le bien. Et on a tout au long de l'histoire du peuple juif des gens qui étaient profondément persuadés de faire le bien. Je ne veux pas donner d'exemple ici pour ne pas déclencher de polémique, parce que vous savez très bien que sur Radio Shalom, nous ne faisons jamais de polémique, parce que nous sommes la radio du Shalom.
Non, mais si vous voulez, moi je peux vous en donner. Hein. Le juif communiste, parce qu'aujourd'hui c'est devenu consensuel, donc maintenant on peut y aller. Le juif bolchevique, il est sûr de faire pour le bien. Il fait ça aussi pour l'émancipation des juifs. Il pense que cette grande révolution bolchevique va libérer tout le monde, y compris les juifs, et il dénonce tous les rébellés Lubavitch. Et il croit.
Absolument.
Et voilà. Absolument. Et il dit, mais parce que comme ça, Trotsky, tout le monde sera égaux, Trotsky, tout le monde sera heureux.
Semyon Demonstein, le fondateur des sections juives du Parti communiste, était profondément persuadé d'œuvrer pour le bien du peuple juif. Tout à fait. Alors, quelle est la réponse qu'on peut apporter à tous ces gens-là? Mais d'une manière générale, je pense que la réponse est la suivante. Je ne pense pas qu'on puisse être plus intelligent et plus clairvoyant que les Chachamim concernant deux choses. Un, ce que la Torah nous demande, et deux, quels sont les ingrédients qui permettent la survie du peuple juif. Aujourd'hui, par exemple, sur la réforme et sur la tentative faite par Mendelssohn, sur le communisme aussi, sur la réforme, on a 200 ans de recul. Sur le communisme, on a aujourd'hui 100 ans de recul. On sait bien ce que ces gens-là ont produit. Donc, en fait, on a un certain recul. Et en fait, d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans l'histoire de Zimri Ben Salou, c'est l'embarras de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Pinchas, il lui dit, toi maintenant qui suggères que ce Zimri là, qui fait quelque chose d'horrible, il faut le tuer, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire. Mais Moshe Rabbeinu, en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit le trouble. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour notre époque aujourd'hui. Le trouble dans lequel se trouvaient les Bnei Israël était le suivant, c'est qu'en fait des dizaines de milliers de gens avaient fauté avec ces filles-là de Midian. Et qu'en fait, il y en avait des millions qui étaient autour, qui regardaient, mais qui ne condamnaient pas. Et vous voyez, c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup de manquements à la tsniout. Et en fait, on les tolère, on les laisse, et tout, etc. Et on vit avec. Et on accepte des choses qui sont très souvent complètement inacceptables. Et on a quand même tétanisé de dire la vérité. Et ben, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé dans la faute de Chittim. Une fois que les Bnei Israël ont franchi 40 ans de désert, ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, ils ont une dernière étape qui est en fait une figure des dernières étapes avant le Mashiach. Avant le Mashiach, le trouble qui va régner dans le monde sera le trouble qui régnait à l'époque du déluge. C'est un trouble sur les identités sexuelles, c'est un trouble sur la cellule familiale juive, c'est un trouble sur tout ce qui touche à la sexualité, sur tout ce qui touche à la pudeur, tout ce qui touche aux relations hommes-femmes, tout ce qui touche au plaisir, au bonheur. Toutes ces données-là sont des données troublées et complètement troubles aujourd'hui. La Torah, elle a des recettes. Et en fait, ces recettes sont des recettes qui marchent. Et en fait, ce que Zimri va proposer, bah, c'est un anti-modèle. Et Moshe Rabbeinu, on a vu que quand il a été face aux Bnei Israël qui ont fait le veau d'or, il a su argumenter. Quand il a été face aux Bnei Israël qui n'ont pas voulu rentrer en Égypte après la faute des explorateurs, il a su argumenter. Mais quand ils ont dit « on en a assez de la manne et on veut manger de la viande », il ne savait plus quoi faire, les bras lui sont tombés. Et quand il s'est retrouvé à Chittim face à des gens qui veulent faire n'importe quoi avec des femmes de Midian, là aussi les bras lui sont tombés. Parce que face à la pulsion, érigée en valeur, bah, d'une certaine manière, ça devient difficile de discuter. Ça devient difficile d'argumenter. Ben, vous voyez, je vais vous dire une chose, là je vais être polémique. Par exemple, sur l'histoire de l'homosexualité aujourd'hui dans le monde occidental, eh bien, on ne peut plus argumenter aujourd'hui, c'est fini. Avant le passage de la loi pour tous en France, on pouvait argumenter, on pouvait discuter. Et encore, aujourd'hui, vous dites un mot, c'est terminé, vous êtes cloué directement. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui qu'une cellule familiale doit être fondée sur la présence d'un homme et d'une femme, et que cet homme et cette femme Ezer Kenegdo, Hachem les a créés hommes et femmes pour qu'ils puissent s'unir et avoir des enfants, et que ces deux choses, ces deux pôles sont fondamentaux pour former la cellule familiale de laquelle va germer un individu qui contiendra en lui un pôle féminin et masculin, qu'il soit garçon ou fille. Bah, quand vous expliquez ça, en termes, quand je viens d'expliquer thérapeutique ou psychologique, vous êtes bombardé. Bah, vous voyez, c'est ce trouble-là dans lequel on vit, c'est ce trouble qu'il faut combattre. Et c'est ça la paracha de Zimri. Zimri, il a voulu introduire le trouble. Il était persuadé de bien faire. Mais c'est du trouble, parce qu'on a du recul, on sait très bien ce que ça donne. Alors Moshe, il n'a pas pu répondre, parce que pourquoi Moshe va répondre à la pulsion érigée en valeur? Mais il a quand même laissé Pinchas faire. Alors nous, on ne va pas agir avec Pinchas aujourd'hui, mais on a des recettes qui marchent. Voilà notre Pinchas contemporain aujourd'hui, on a des recettes qui marchent. La famille juive, la cellule familiale juive, c'est celle devant laquelle Bilam s'est incliné. Toutes les malédictions qu'il a dites, toutes les bénédictions qu'il a dites contenaient une malédiction. Mais quand il s'est retrouvé face au Beth Amidrash, au centre d'études, à la synagogue, à la famille juive et à la pudeur de la famille juive, et finalement à la structure de la famille juive, et même dans certains versets, quand il a pu voir ce qu'est la sexualité, par exemple, dans le judaïsme, eh ben, il s'est incliné. Et finalement, ce sont nos recettes qui jouent le rôle de Pinchas, je pense, aujourd'hui. Nos recettes sont claires, il suffit de les étudier, de les connaître, de les pratiquer, et d'accepter qu'on doit avancer étape par étape pour reconstruire. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est notre Pinchas, je pense, notre Pinchas contemporain. Voilà, c'est une réflexion, j'invite chacune et chacun à y réfléchir.
Ben on va essayer, mais moi je pense que la question que vous évoquez, c'est la question du « ah oui, mais on est des hommes ». C'est pas « je pense bien faire », c'est « mais on est des hommes ». Et moi je veux vous dire très clairement devant tout le monde, je suis sûr que c'est une phrase que je prononce au moins toutes les semaines. Au moins toutes les semaines. Il y a toujours un moment où je me dis « bon, mais on n'est que des hommes. » C'est ça la question, c'est pas de
mais
croire.
Mais c'est la réponse de la Torah, on n'est que des hommes. Elle est, mais oui, tu es un homme, la création d'Hachem.
Prends-le autrement. Ouais.
Alors, adresse-toi, voilà. Mets la virgule ailleurs. C'est toujours la même chose. Finalement, la Torah nous propose de dire ce que le monde dit, mais en mettant la virgule à un autre endroit, en mettant le curseur ailleurs. C'est finalement là que ça se joue. Mais ça se joue dans l'étude de nos textes. La réponse, comme Moshe Rabbeinu le montre, elle n'est pas une réponse toute faite. C'est une réponse qui se joue dans l'étude de nos textes, voilà, et dans le vécu et dans les tranches de vie qu'on veut bien se permettre de vivre avec nos familles, avec notre étude, avec nos synagogues, avec notre relation avec Hachem, avec la Torah, avec nous-mêmes, avec nos conjoints, dans toutes ces dimensions.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie et je vous souhaite un grand et beau Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Thank you.
présent avec Rav Guy. Bonsoir Rav Guy, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Rav Guy, alors on va parler ce soir avec vous, non pas de la paracha, mais de la période que nous connaissons, la période des trois semaines de deuil qui évoque la destruction des deux temples, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, comme chacun sait. Et alors, fait extraordinaire, vous voulez nous parler aujourd'hui du Kotel. Alors je vais vous dire franchement, Rav Guy, je ne me souviens pas, déjà sûr dans cette émission, que quelqu'un, qu'un rave, ait fait une dracha sur le Kotel. Même d'ailleurs, des fois on dit un peu, bon, le Kotel, c'est un petit peu, c'est tellement triste que c'est un peu ce qui nous reste, quoi. C'est un bout de muraille, tu vois. Et alors, on est vraiment, on va être très concentré pour entendre ce que vous voulez nous dire, Rav Guy.
Alors très bien, effectivement, je voudrais parler du Kotel parce que effectivement, nous sommes dans la période des trois semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre le 17 Tammuz et le 9 Av. En fait, on va pendant ces trois semaines lire des Haftarot qui ne sont pas liées au sujet de la paracha, et qu'on appelle les trois Haftarot de la punition, de la sanction, c'est-à-dire des Haftarot qui nous annoncent les moments difficiles que représente le 9 Av et la destruction évidemment du Beth Amikdash. Et comme on parle de la destruction du Beth Amikdash, je voulais justement parler du Kotel et vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 483 ans. Alors que s'est-il passé cette année-là? Il y a, à l'époque, il y avait un sultan qui dirigeait Jérusalem. Mmh. Et ce sultan avait donc évidemment, comme partout, évidemment un palais. Et justement, lorsqu'il regarde, il vient de s'installer dans son nouveau palais, il regarde par la fenêtre, et il voit quelque chose de très étonnant. Il voit une femme, très âgée, qui porte un sac poubelle très lourd, et qu'elle va déposer juste en bas de sa fenêtre. Et il voit qu'en fait, en dessous de sa fenêtre, il y a énormément de sacs poubelles. Bon, évidemment, il trouve ça absolument très déplacé, très très déplacé. Il dit, mais comment c'est possible qu'on mette des poubelles en dessous de ma fenêtre? Et donc, il fait appeler cette personne âgée, cette femme âgée, et il lui pose des questions. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Déposer des poubelles à cet endroit? Elle lui répond, de religion catholique, et en fait, j'habite loin de Yerushalayim. J'habite même à une distance de 2 jours de Jérusalem. Et qu'est-ce que je fais là? Ben en fait, je fais la tradition ancestrale. Mes ancêtres font ça depuis des années et des années. Et en fait, ça date de l'époque des Romains. Que chaque personne amène à Yerushalayim sa poubelle pour le déposer ici. Alors, si on habite loin, eh bien, on le fait qu'une fois par mois. Mais si on habite à Yerushalayim, c'est tous les jours. Et si on habite aux alentours de Jérusalem, c'est 2 fois par semaine. Voilà notre usage ancestral. Et là, le sultan lui demande, mais pourquoi? Et elle lui répond, c'est parce qu'ici, il y avait la maison du Dieu d'Israël, le temple, le Beth Amikdash. Les Romains l'ont brûlé, l'ont détruit. Mais il y a un mur qu'ils ne sont pas parvenus à détruire. Un mur, le Kotel, et qu'ils n'ont pas pu détruire. C'est pour cela, pour, entre guillemets, se rattraper, ils ont demandé que tout le monde amène leur poubelle pour en fait le couvrir de détritus, de poubelles, pour qu'on ne puisse pas y accéder et qu'on ne le voit même plus. Donc pendant des années et des années, je dirais même des centaines d'années, on voit des personnes amener des poubelles pour couvrir le Kotel de détritus, pour que tout simplement on ne voit même pas qu'il existe. On ne voyait même pas qu'il y avait un Kotel à cet endroit-là. Alors, le sultan est très étonné et il demande à ses soldats de voir ce qui se passe, s'il y a d'autres personnes qui viennent, effectivement, comme elle, apporter des poubelles. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Tous les jours, il y a des gens qui se rendent à cet endroit et ils déposent leurs poubelles. Et chacun dit que c'est une tradition ancestrale, mais la plupart ne savent même pas pourquoi ils le font. Là-dessus, le sultan prend une décision. Il libère la femme de la prison et il fait passer le message suivant. Celui qui veut trouver grâce aux yeux du sultan, eh bien qu'il vienne rendez-vous sur justement cette colline de poubelle qui est au pied de mon palais et faites ce que je vais faire. Donc énormément de gens viennent, curieux de voir ce que le sultan allait faire, et aussi parce qu'il voulait trouver grâce à ses yeux. Le sultan prend une pelle et il monte sur ce monticule énorme dans de poubelles et il commence à remplir un panier et il commence donc à vider les poubelles au fur et à mesure. Évidemment, et avant de descendre de ce monticule, il jette à cet endroit-là des pièces d'or et d'argent. Évidemment, tout le monde se précipite pour les ramasser, mais il continue effectivement à nettoyer cet endroit. Ça va prendre un mois, mais avec beaucoup d'efforts, ils vont enlever toutes les poubelles qui se trouvaient à cet endroit-là. Et évidemment, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le Kotel Amaravi, qui est là, devant nous, dans toute sa splendeur. Et le sultan met des gardiens et leur dit « Si quelqu'un apporte une poubelle, vous le mettez en prison. » Interdiction maintenant de jeter une poubelle à cet endroit-là. Après cela, il appelle le rav de la communauté juive, qui était à cette époque-là à Jérusalem, et lui dit « Vas-y, reconstruis le Beth Amikdash. Je te donne tous les moyens financiers pour le faire. » Le rav répond, il dit « Je vous remercie beaucoup, monsieur le sultan, mais je ne peux rien faire, j'attends la venue du Mashiach, c'est lui qui reconstruira le Beth Amikdash. Par contre, je vous demande quelque chose, que ce lieu soit reconnu comme étant le lieu de la prière pour les Juifs. » Et c'est depuis donc 483 ans que le Kotel est ce que vous savez aujourd'hui, mais avec une petite coupure, vous le savez très bien qu'à l'époque où il y avait les Arabes qui avaient conquis Jérusalem, entre 1948 et 1967, ça n'a pas été non plus possible. Sinon, les Juifs ont prié au Kotel depuis cette époque-là. Et je voudrais d'abord vous expliquer que c'est pour cela que lorsque vous arrivez au Kotel, en prenant par exemple l'entrée des bus, le bus numéro 1, numéro 2, il passe par ce qu'on appelle le Shar HaHashpot, la porte des poubelles. En fait, c'est un souvenir de ce terrible, entre guillemets, usage et tradition installée par les Romains qui ont voulu faire disparaître le Kotel, à défaut de le détruire, au moins de le couvrir de détritus. Donc ça, c'est l'histoire que je voulais raconter et je voudrais en prendre aussi un message très fort pour nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement le Beth Amikdash, le temple, soit reconstruit? Grâce à Dieu, Jérusalem se reconstruit jour après jour, des grues partout, des quartiers nouveaux qui se construisent. C'est magnifique. Jérusalem n'a jamais été aussi habitée qu'aujourd'hui. Malheureusement, il manque au centre de Jérusalem ce que nous attendons tous, c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Maintenant, nous savons tous que de monter en ce moment sur l'esplanade, on appelle des mosquées, serait extrêmement périlleux. On sait très bien ce qui se passe si on touchait aux mosquées. D'ailleurs, le problème ici n'est pas un problème géopolitique, comme on pourrait le croire, mais c'est un autre problème que je vais expliquer maintenant. Vous avez tous entendu qu'il s'agissait donc de poubelles qui couvraient l'endroit du Kotel. Alors un rav s'appelle Rabbi Shalom Meir Valach, il disait la chose suivante. Dans chaque juif, il y a un Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, c'est évidemment le lien que nous avons grâce à notre Neshama avec Hachem, avec Dieu. Le problème, c'est que cet endroit est souvent recouvert de poubelles. C'est-à-dire quoi de poubelles? C'est-à-dire que nous faisons des fois des averot, nous avons des attitudes d'orgueil, des attitudes diverses et variées qui ne plaisent absolument pas à Hachem. Et c'est que l'équivalent, spirituellement parlant, de poubelles qui sont s'amoncellent et qui font que le petit Kotel, le petit Beth Amikdash qui est au fond de nous, est recouvert lui aussi de détritus, entre guillemets, c'est-à-dire de toute forme de midot ra'ot, de mauvaises attitudes, de traits de caractère négatifs et de toutes sortes de médisances, etc., etc. Tout cela est recouvert de détritus. Mais Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous faisions un peu la place, c'est-à-dire que nous enlevions toutes ces fautes, toutes ces avérotes, toutes ces midot ra'ot. Et le jour où le peuple juif aura fait le ménage à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre personnalité, dans notre façon d'être, et nous aurons dévoilé le Beth Amikdash qui est au fond de chacun d'entre nous, à ce moment-là, Dieu reconstruira le grand Beth Amikdash au centre de Jérusalem, et il n'y aura aucune opposition de la part de qui que ce soit. Si une opposition existe aujourd'hui, c'est parce que d'abord, nous ne sommes pas encore prêts à le reconstruire. Vous savez tous que nous n'aurions aucun problème aujourd'hui à trouver des donateurs pour construire le Beth Amikdash. Il suffirait de faire un petit allodon de quelques millions d'euros.
Non, quelques milliards.
Quelques milliards d'euros. On le trouverait facilement. On va dire planétaire. Je pense que les gens se battraient. Et peut-être qu'il y aurait même des gens qui diraient je veux offrir tout le Beth Amikdash.
Je ne vois pas de problème.
Et ça, évidemment, on n'accepterait pas parce qu'il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice. C'est le cas de le dire. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et je ne peux que nous rappeler à nous tous la raison pour laquelle le deuxième Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite, à cause de la médisance. Et donc, si nous voulons qu'il soit reconstruit, il faut que nous nous débarrassions de ce venin, de ce poison dangereux qui est la parole déplacée, les médisances et la haine gratuite. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait... Alors, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et ce jour-là, le jour où on aura fait le ménage à l'intérieur de nous, eh bien, Kadosh Baruch Hu fera le ménage sur le mont du Temple et amènera ce qu'il faut. Et les musulmans eux-mêmes nous donneront la place en disant « Bruchim Abayim, bienvenue, salam alaikum, votre place est là ». D'ici là, que faut-il faire? Il y a 3 semaines. Et que faut-il faire dans ces 3 semaines? Alors, je vous cite encore un petit enseignement du Rav Wolbe. Il nous disait, les 3 semaines, c'est les 3 semaines dans lesquelles, il y a combien de jours dans les 3 semaines? Ben, on va compter depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av inclus, ça donne 22 jours. Combien y a-t-il de jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah? Vous avez 22 jours. Je parle en Israël. 22 jours et 22 jours. Et qu'est-ce que nous disent nos Chachamim? Les 22 jours du mois de Tishri sont des mois de proximité, des mois de fête. Les 22 jours du mois de Av Tammuz sont des périodes d'éloignement. On nous percevons que Dieu est loin de nous. Alors en fait, il faut savoir que lorsque l'on veut se rapprocher d'Hachem, il y a 2 façons. Il y a fêter en Tishri les différents moments, les rendez-vous extraordinaires de Rosh Hashanah, Kippour, etc. Et il y a également les moments où nous percevons, où nous regrettons l'éloignement d'Hachem. Ça ressemble un peu à un couple. Un couple peut être proche lorsqu'il est tout simplement ensemble et qu'il passe des moments d'intimité. Il peut être aussi proche lorsqu'ils se séparent et qu'ils ressentent chacun le manque de l'autre. Je ressens que l'autre me manque et donc à ce moment-là, je ressens la proximité que j'ai avec l'autre. Ainsi, Akadosh Baruch Hu nous dit, en Tishri, nous sommes proches, 22 jours de proximité. Eh bien, au mois de Tammuz Av, c'est 22 jours où nous percevons combien Dieu est loin de nous, mais combien nous le languissons. Et plus nous le languissons, plus il reviendra vite. Et le Rav nous disait au nom du Baal Shem Tov, celui qui ressent qu'il est loin d'Hachem, il en est proche. Celui qui sent qu'il est proche, en fait, il en est loin. Donc c'est ce ressenti de cet éloignement.
Pourquoi celui qui en est proche, il en est loin?
Parce qu'en fait, lorsqu'on pense qu'on est proche, ça veut dire que quelque part, on est un peu orgueilleux, on est un peu satisfait de soi-même, et qu'on a le sentiment qu'on fait tout ce qu'il faut. Et en fait, un juif ne sent jamais qu'il est, encore une fois, arrivé à la proximité HM. Il a toujours du chemin devant lui, toujours des améliorations à faire. Toujours. Si quelqu'un a cette autosatisfaction, ça veut dire tout simplement qu'on est encore loin, parce que finalement, on pense être déjà arrivé à quelque chose, alors qu'en fait, le chemin est très très long. Mais lorsqu'on sent qu'on est loin, c'est que finalement, on sent qu'on est proche. Et ça, c'est ce que je voudrais que pendant ces 3 semaines, nous faisions, c'est un travail sur nous-mêmes, pour nous dire combien nous manque justement cette présence de la Shekhina, où je vous rappelle qu'on peut suffire de rentrer dans Beth Amikdash, de voir les 2 chérubins qui étaient enlacés, d'entendre le chant des Lévi'im et de voir les Kohanim servir dans le Beth Amikdash, dans le temple, avec les sacrifices, tous les Juifs rassemblés, tous unis autour du Beth Amikdash. Eh bien, c'est un moment qui nous manque énormément et j'espère que si ça nous manque à tous, eh bien, tout simplement, Hachem dira « Bon, il faut absolument que je revienne, je suis attendu, j'arrive. » On espère pour très bientôt.
Amen.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Rav Gueh. En vous écoutant, je me disais, c'est peut-être ce que le Tanya appelle la klipa, non? Ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est pas
exactement,
ça,
c'est la, c'est
ça.
La clipa, c'est la clipa, c'est-à-dire l'écorce.
Ouais, c'est l'écorce qu'il faut casser pour trouver le jus à l'intérieur.
Exactement. Eh bien, il y a une écorce au fond très, très, très épaisse dans notre corps qu'il faut ouvrir, qu'il faut casser pour pouvoir découvrir cet endroit très profond au fond de nous qui nous relie avec Hachem, que chaque juif a, peu importe son niveau de religion, de pratique.
Rav Guay, je vous remercie pour ces très belles paroles et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom sur ces belles paroles. Et je vous retrouve à 18h pour un journal qui est enregistré.